5, 4, 3, 2, 1, 0.
Exclusivité LFIP Line. Trois élèves de la web radio LFIP Line ont eu le privilège mardi 3 novembre de s'entretenir avec M. Hollande, président de la République française, mais aussi avec M. Hulot, envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. Sans plus attendre, les interviews.
Nos élèves de seconde vont réaliser une simulation de la COP21 le 11 décembre à l'ambassade de France. Si vous faisiez partie des débatteurs, quelles mesures phares mondiales défendriez-vous? Quels en seraient les moyens? Et quels sujets vous semblent absolument incontournables?
Mais moi, je ne vais pas faire un jeu de rôle au mois de décembre. Ce n'est pas un jeu d'ailleurs. Hein. Vous, c'est très bien que vous puissiez simuler ce que va être une négociation. Et il faut que vous puissiez représenter des groupes de pays. Les pays les plus modestes, les plus pauvres, les plus fragiles, les pays les plus émergents, les pays les plus développés, de manière à ce qu'on fasse bien comprendre quels sont les enjeux. Mais ce que je vais défendre, c'est ce qu'on a justement décidé avec le président chinois, c'est-à-dire un accord qui soit contraignant, avec des engagements qui soient élevés, et pour être sûr qu'on va ne pas dépasser 2 degrés de...
Tout de suite, enchaînons avec l'interview de Nicolas Hulot.
Non. Oui, tous les deux dans la même classe.
Et pas la même famille ?
Non. Ok. Vous êtes prof ou parent ?
Moi, je suis proviseur du lycée.
Ah, vous êtes le proviseur.
Madame Ducrot est documentaliste.
D'accord.
C'est elle qui mène le projet de la radio.
D'accord.
Et puis, Monsieur Robin est professeur d'histoire-géographie et monte, avec les élèves de seconde les plus grands, une simulation de la COP21 avec les élèves.
D'accord, très bien. Alors, c'est parti.
Bonjour, Monsieur Hulot. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer pour partager votre avis d'expert sur les problèmes écologiques. Nous sommes encore plus honorés, car, comme vous le savez peut-être, le lycée français international de Pékin se met à l'heure de Paris pour la COP21. Elle s'engage pour le climat et se lance une simulation de l'événement réalisé par tous les élèves de seconde et soutenu par les autres. Tout de suite, la première question.
Comment devient-on envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète?
D'abord, c'est la suite d'un engagement que je mène à titre personnel depuis presque 30 ans maintenant, puisque j'ai créé il y a presque 30 ans une fondation qui s'occupe de protection de l'environnement. Et au-delà de la protection de l'environnement, en fait, la protection de l'humanité, parce que simplement comprendre que protéger la nature, c'est important, mais il faut le faire pour la nature, mais il faut le faire aussi pour les hommes, parce qu'ils ne peuvent pas se passer de la nature. Je me suis engagé pendant 30 ans, j'ai essayé à travers le milieu associatif de sensibiliser, de convaincre, de mobiliser, et notamment les acteurs politiques. Donc dans mon engagement en France, j'ai connu un certain nombre de responsables politiques, selon les gouvernements. Et puis, à cette occasion, entre autres, j'ai discuté longuement avec François Hollande, qui entre-temps est devenu président de la République. Et quand il a été élu en 2012, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, on avait un dialogue sur les sujets écologiques. Voilà. Et dès qu'il a été élu, une des premières décisions qu'il a prises, et je pense y avoir contribué, c'est que la France propose d'accueillir la conférence climat qui va avoir lieu à Paris à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre. Donc il va réunir 195 États plus les 28 États de l'Union européenne pour se mettre d'accord sur un accord, je l'espère, pour lutter contre le changement climatique. Et donc quand il a décidé que la France allait accueillir la conférence climat, et compte tenu du fait que je considère qu'on est dans une situation assez critique et qu'on a très peu de temps pour agir, j'ai décidé, jusqu'à la conférence de Paris, de me consacrer exclusivement à la mobilisation des acteurs économiques, politiques et également des ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire les citoyens, pour créer toutes les conditions pour que cette conférence soit un succès. Voilà. Et on a défini ensemble avec le président à quoi pourrait ressembler ma mission. Il fallait une mission qui soit transversale, qui nous permette d'accéder à des responsables dans le monde entier. Donc il fallait que ce soit une mission aussi diplomatique. Et donc pour accéder aussi à des personnes de haut niveau, il fallait que ce soit une mission auprès du président, puisque la chance que j'ai, c'est que quand je me déplace pour le président. Donc ça me m'ouvre des portes auxquelles je n'aurais pas forcément accès si je n'avais pas ce titre-là. Voilà, donc c'est envoyé spécial pour la protection de la planète. Encore une fois, il faut garder l'esprit que la planète, elle a besoin de nous, mais elle peut se passer de nous, alors que nous, on ne peut pas se passer de la planète.
Le principal objectif de la COP21 est de trouver un accord afin de maintenir sous les 2 degrés l'augmentation de la température moyenne terrestre depuis les débuts de l'ère industrielle. Croyez-vous qu'il soit possible de parvenir à un consensus autour de cet objectif?
De toute façon, on n'a pas le choix. Il faudra trouver un consensus. Si jamais on ne le trouve pas à Paris, il faudra le trouver juste après. Parce que simplement, pourquoi est-ce que l'objectif de Paris, c'est de trouver un accord qui permette de limiter les changements climatiques sous la barre des 2 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle, comme tu viens de le dire? Parce que les scientifiques nous expliquent que si on franchit la barre des 2 degrés, la température ne va cesser de s'élever et que quoi que l'on fasse après, on va rentrer dans un phénomène irréversible. Donc irréversible, ça veut dire qu'après, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Bon, donc c'est important de ne pas laisser ces phénomènes nous échapper. Donc si, pour une raison ou une autre, parce que c'est compliqué, il y a 196 nations qui vont discuter à Paris, chacun se rejetant un peu la responsabilité, tout le monde n'ayant pas les mêmes capacités pour agir. Si par hasard ou par malheur, l'accord n'est pas suffisant, il faudra très très vite revenir pour accélérer les engagements. Mais on n'a pas d'autre choix, parce que l'humanité ne peut pas se payer le luxe que les changements climatiques nous échappent, parce qu'il y aura des conséquences humaines, économiques, et probablement des conséquences sur la paix dans le monde qui seront... Voilà. Donc c'est pas une option, c'est une obligation. Mais bon, voilà, Paris peut en apporter, je dirais, peut-être 80% du résultat, et à ce moment-là, il faut aller chercher les 20% supplémentaires dans des initiatives immédiatement derrière.
Que pensez-vous du rôle de la Chine dans les problématiques internationales sur le changement climatique ?
Le rôle de la Chine a énormément évolué depuis quelques années, parce qu'il y a encore quelques années, la Chine n'était pas très mobilisée sur ce qu'on appelle les enjeux climatiques. La Chine avait des priorités, d'abord de donner accès à un certain nombre de choses élémentaires à sa population, et puis la Chine était dans un développement excessivement rapide. Il se trouve que la Chine était affectée, frappée par ce qu'on appelle la pollution, qui, pour vous qui vivez en Chine, est probablement assez visible, et qui occasionne qui a des grandes conséquences sur un plan de la santé, et également des conséquences sur un plan économique, parce que d'abord, quand ça a des conséquences sur la santé, ça a des conséquences économiques, et puis parfois, vous l'avez peut-être vu, mais moi je me rappelle quand j'avais été à Shanghai, la circulation avait été interrompue à cause de la pollution, certaines activités économiques avaient été interrompues. Donc la Chine veut résoudre ces problèmes de pollution qui sont dus à un modèle de développement qui est particulièrement polluant. En luttant contre la pollution, par voie de conséquence, ils luttent contre les changements climatiques parce que les causes de la pollution, ce sont les mêmes causes qui dérèglent le changement climatique. Puis entre-temps quand même, la Chine a pris conscience que les changements climatiques peuvent avoir aussi des conséquences très importantes dans son pays, notamment en affectant les ressources en eau, en réduisant ce qu'on appelle les rendements agricoles. Ça peut déplacer des populations importantes. Voilà. Donc la Chine est devenue maintenant, avec l'ensemble des États, très énergique sur ces sujets-là. Et donc, comme c'est le pays qui, en volume, c'est-à-dire en quantité de gaz à effet de serre, est le premier pays émetteur au monde, si la Chine n'était pas engagée, évidemment, des pays qui ont moins de responsabilités hésiteraient à s'engager en disant « Écoutez, il faut que les Chinois ou les Américains, qui sont les deux principaux émetteurs, bougent. » Donc, comme la Chine bouge, elle a ses propres engagements, c'est très important. Parce que si la Chine ne bougeait pas, le reste du monde serait en droit de dire « Écoutez, tant que la Chine ne bouge pas, on ne bouge pas ». Maintenant, la Chine commence à bouger et elle commence relativement vite. Il faut qu'elle fasse plus, mais par rapport à il y a quelques années, l'engagement de la Chine est un peu inattendu et dans le bon sens du terme.
Des élèves de seconde ont évoqué en cours l'hypothèse d'un tribunal international pour la protection de l'environnement. Que pensez-vous de cette idée ?
Je pense qu'il faudra adapter le droit international aux enjeux écologiques et notamment ce qu'on appelle les enjeux universels et les enjeux du long terme. Simplement parce que nous sommes en situation aujourd'hui de pouvoir compromettre les conditions d'existence, peut-être même les vôtres, et a fortiori de vos enfants. Et donc, il faut faire rentrer le futur dans le droit, c'est-à-dire, il faut aussi que ceux qui n'ont pas accès à la parole, les écosystèmes, les animaux, les végétaux, et les générations futures, puissent avoir des droits aussi. Et puis, je pense que c'était important de faire rentrer dans le droit international les droits et les devoirs de l'humanité. Donc je pense que, voilà, et puis aujourd'hui, il y a un certain nombre de biens communs, c'est-à-dire des choses qui appartiennent à tout le monde, à toutes les générations, à tous les citoyens du monde qu'il faut mettre sous protection du droit. Voilà, les sols, les ressources alimentaires, les ressources naturelles, les grands équilibres climatiques. Puis on ne peut pas laisser une poignée de gens détruire des choses qui appartiennent à tout le monde et dont dépend notre propre survie. Donc oui, je suis pour adapter le droit, après sous quelle forme, j'en sais rien, mais ce qu'on appelle la criminalité écologique aujourd'hui n'est pas suffisamment pris en compte. On est capable, si on continue comme on est en train de se développer, de compromettre les conditions d'existence sur la planète, et donc il faut se prémunir de cela.
La lutte contre le changement climatique a un coût. Comment le financer ?
La lutte a un coût, mais les conséquences du changement climatique a d'ores et déjà un coût. Ça coûte très cher, la pollution, ça coûte très cher. Les déplacements de population, les typhons, les tornades, les incendies, les sécheresses. Donc quand on lutte contre les changements climatiques, quelque part, on économise à l'avance les conséquences que l'on va avoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pas forcément d'argent supplémentaire dont on a besoin, c'est de définir nos priorités. C'est-à-dire de ne pas disperser l'argent sur tous les fronts. Je vais te donner un exemple bien simple. Ce qui est notamment à l'origine des changements climatiques, c'est l'utilisation des énergies fossiles. Donc les énergies fossiles, premier rang le charbon, le pétrole et le gaz. Chaque année, les États du monde entier accordent aux énergies fossiles l'équivalent de 650 milliards de dollars en subvention aux énergies fossiles. C'est-à-dire ces 650 milliards qu'on donne sous une forme ou sous une autre, une sorte de cadeau, pour développer les énergies fossiles. Il vaudrait mieux mettre ces 650 milliards pour développer les énergies éoliennes ou l'énergie solaire. Donc tu vois, c'est une question de définir quelles sont ses priorités.
Quel est dans tous vos voyages celui qui vous a le plus marqué ?
À quel point de vue ? Qui m'a marqué en négatif ou en positif ?
En positif.
Ah, en positif. Écoute, il y en a eu un paquet de voyages qui m'ont marqué, mais je dirais que j'ai un jour passé un long séjour avec des Indiens qu'on appelle les Indiens Zoé, dans l'état du Mato Grosso au Brésil, qui sont des Indiens qui, jusque dans les années 80, donc c'est quand même pas vieux, n'avaient jamais eu aucun contact avec d'autres peuples, y compris avec d'autres communautés indiennes. Et donc j'ai pu passer 15 jours avec des hommes, des femmes et des enfants qui étaient exactement, semblables à ce qu'ils étaient probablement il y a 2 ou 3 000 ans dans les modes de vie, dans les habitudes alimentaires, dans les modes de chasse, les modes de pêche, leurs habitudes vestimentaires également. Donc ça m'a beaucoup touché, parce qu'ils avaient une relation avec la nature qui était excessivement harmonieuse et respectueuse.
Pour conclure cette interview,
ça y est,
on fait la dernière. La dernière.
Si vous aviez un message à faire passer aux élèves de seconde, engagés dans le projet de la COP21, mais aussi à tous les autres, lequel serait-il ?
Alors vous allez sur le site de ma propre fondation, et vous allez sur le site Osons Agir pour le climat, et vous avez une pétition à signer qui est destinée au chef d'État. C'est le minimum qu'il faut faire, la signer et trouver 3 copains qui eux-mêmes ont trouvé 3 copains qui vont signer la pétition. Voilà. Merci à vous.
Merci beaucoup, monsieur.
Bon courage.
Merci, vous aussi.
Bravo. On va s'arrêter là.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci. Au revoir. Bonne continuation.